RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassine. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Timothée Mémon.
C'est la deuxième heure de l'after, c'est jusqu'à minuit. Tout à l'heure, on va jouer avec le quiz de l'after, un quiz sur les grandes déceptions de ces tours préliminaires des Coupes d'Europe. Voilà, vous avez déjà le thème, vous pouvez commencer à y penser.
Je pense que j'en ai déjà.
On va parler également tout à l'heure de Toulouse. On sera avec Wilfried Templier pour évoquer la pré-saison des Toulousains, le mercato et l'inquiétude autour de l'entame de la saison des joueurs du TEF. Avant cela, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Il est 23h. Alors messieurs, cet après-midi a eu lieu la première conférence de presse d'avant-match de l'OL à J-2 puisque Lyon ouvrira à Monaco la saison de Ligue 1. Pour en parler avec nous les yeux d'Eric Chester,
j'y serai, monsieur, pour
le réseau Gaune, fils Léo Cor, il fait partie des envoyés spéciaux en région qui hument, qui savent, qui sentent le pouls d'un club et d'une région. Edouard G est avec nous, bonsoir Edouard.
Fouya, bonjour. Salut Edouard. Timothée,
salut Doudou,
salut Daniel.
Alors avant d'en arriver à tes infos et au feeling que tu as eu après cette conférence de presse et puis plus globalement sur cette avant saison, on va d'abord écouter une première pastille d'un Silvinho extrêmement confiant malgré les matchs de préparation médiocres. On y viendra un petit peu plus tard. On a senti, Edouard, pendant cette conférence de presse, beaucoup de confiance en tout cas annoncée dans la communication de Silvinho. Est-ce que c'est la méthode Coué? Parce qu'on rappelle quand même que les matchs amicaux ont été assez médiocres côté Olympique Lyonnais.
Ouais, alors c'est vrai que sur les matchs, il y en a eu 5 de préparation, il y a eu 4 défaites, une seule victoire à Arsenal avec ce doublé de Moussa Dembélé qui à lui seul a retourné
les matchs. C'est simple, il n'y avait jamais eu une préparation aussi pourrie.
Il y avait eu 80% des matchs perdus aussi sur une série, il me semble, hein, mais récemment.
En match en préparation, il y avait déjà eu un truc comme 4 sur 5
ou 3 sur 4 ou quelque chose comme ça, mais j'ai plus vraiment en tête. Alors après, c'est vrai que certains matchs ont leur vérité du moment. Par exemple, la défaite face au Servette de Genève, les Suisses la semaine d'après étaient en match, donc en championnat, donc ils étaient déjà prêts. La défaite face au Genoa, l'OL menait 3-1, il y a eu un grand changement d'équipe et au final ils prennent 3 buts dans le dernier quart d'heure. Mais c'est vrai qu'il y a le dernier match face à Bournemouth qui résume un petit peu tous les mots qu'on a pu voir du côté de l'OL avec ce 3-0, ces quelques errances. Alors c'est un peu un rendez-vous un terrain inconnu du côté de l'OL pour vendredi parce qu'il y a vraiment aucune certitude, bien évidemment parce que les matchs l'ont indiqué. Tu l'as dit, Timothée, méthode, alors Coué ou pas, en tout cas, c'est cette méthode avec beaucoup de sourires. On a beaucoup entendu le mot ajustement, ce mot qui est revenu beaucoup dans la bouche de Silvinho en conférence de presse. Il a aussi expliqué que le temps de digestion un petit peu de tous les nouveaux concepts et toute sa nouvelle méthode, 3 à 4 matchs pour voir tout ça. Mais il a tout de suite mis tout le monde d'accord. Hein. Nous sommes dans un championnat et les résultats, ils comptent déjà, d'autant que Monaco, c'est un adversaire direct. Donc, malgré un petit peu les tâtonnements actuels, il veut quand même une victoire vendredi, à savoir aussi par un retour de l'interne que la préparation estivale au niveau physique a été très très lourde, ce qu'on me dit, et que notamment sur le match de Bournemouth, quelques joueurs étaient émoussés. Voilà, donc voilà pour les choses factuelles, peut-être quelques explications. Mais c'est vrai qu'après, on va voir ce que ça va donner vendredi pour ce premier match de championnat à Monaco.
Et puis Edouard, il reste pas mal d'inconnus autour de cette équipe. Le système de jeu, il en a parlé, Silvino, lors de cette conférence de presse. Et puis le capitaine, t'as des informations, des tendances?
Alors, le système de jeu, on était tous restés sur cette fameuse phrase du 4-3-3 de la première conférence de presse. Là, il est un petit peu revenu là-dessus. Sauf une donnée, c'est que... il faut aussi mettre un contexte, c'est qu'il a parlé brésilien Santo. Il a essayé aussi parce que c'était plus fluent, ça lui venait plus rapidement dans la tête en anglais, mais surtout il y avait un traducteur, et le traducteur qui n'était pas forcément au fait des affaires du football, donc il y a deux trois moments où qui ont été un petit peu flous dans la traduction. Et puis j'avais même une consoeur que l'on connaît bien, RMC Sport, Mélanie Ferreira, qui était avec moi, et qui certains passages aussi de Silvinho n'arrivaient pas bien à comprendre le contexte de certains mots. Donc voilà, c'est un petit peu difficile aussi à comprendre cette première conférence de presse, parce qu'il y a toute cette donnée là. Par contre, la seule chose au niveau tactique, c'est que il ne voudra pas jouer à 5 défenseurs, ça sera toujours 4. Voilà. Alors 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, mais en tout cas jamais de défense à 5. Et l'autre info sur le capitana, parce que tu m'as posé la question, il nous a pas dit qui allait être capitaine de façon publique.
Bah, annonce-le nous quand même.
On ne sait pas trop. Donc il y a Lopez, Denayer, Memphis Depay, Léo Dubois et Aouar qui ont eu le brassard de capitaine autour du biceps tout au long des 5 matchs de préparation. Ça a été un capitana tournant. Donc Silvinho nous a dit qu'il sait qu'il va mettre comme capitaine, mais qu'on le saura vendredi.
Attends, Edouard.
Ouais.
On va, avant que tu, je sais pas si tu allais le faire, mais je te coupe quand même si tu allais donner ton impression sur le sujet. Mais petit jeu, Ludo, tu le donnes à qui?
Denayer.
Toi, Timothée?
Lopez.
Moi, je le donne à Memphis.
Ça peut être une possibilité aussi pour lui donner plus de responsabilités.
Exactement.
Alors moi, c'est vrai que moi, depuis l'année dernière,
Je lui donne pas parce qu'il prolonge pas.
Alors,
Lopez, je lui donne pour lui demander de prolonger.
Moi, depuis.
je suis pas sûr que ça soit une histoire de brassard pour lui.
Edouard, à toi.
Depuis l'année dernière, je pense que Léo Dubois a la tête, les jambes, l'état d'esprit et le physique, on va dire, d'un vrai capitaine lyonnais. Voilà, pour en avoir connu quelques-uns, j'ai l'impression qu'il rentre dans les clous. Est-ce que ça va être lui ou pas? Oussem Aouar, parce qu'il fait partie des 5 hein, qui l'ont eu, je pense que c'est un petit peu jeune pour lui. Ouais. Alors, c'est vrai que. Anthony Lopez, je pense que bon, pour la raison déjà de sa prolongation.
Puis gardien, j'aime pas le gardien voilà, capitaine, sauf si le mec s'impose absolument.
Je pense que c'est surtout l'aspect gardien. Hein. S'il n'a pas le brassard, je pense pas qu'il faille l'interpréter par rapport à son instance actuellement de prolongation ou pas. Une situation qui est d'ailleurs assez inextricable. Pour le moment, j'arrive pas à tout comprendre ce qui se passe entre ce que dit Jean-Michel Aulas sur le cas. C'est réglé avec Anthony Lopez, mais c'est une question de commission d'agent. J'ai pas l'impression que ça soit ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En tout cas, ça. Franchement, autant à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de mai, je vous disais, oh, c'est une question, j'ai déjà vu 50 fois cette opération.
Mais est-ce que ça peut causer préjudice à cette histoire-là? Est-ce que ça peut avoir des répercussions négatives qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui?
Je ne sais pas. Ça, franchement, en tout cas, lui, ça le perturbe pas dans son aspect préparation. Franchement, il est très bien dans sa préparation. Tout va bien. Et en plus, il était là depuis le début. Hein, donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Est-ce qu'à terme, parce qu'on se rappelle aussi qu'il y a toute cette histoire de prolongation. Et puis, il y a Tata Roussanou qui est là. Hein, voilà. Donc, c'est pas n'importe quel numéro 2 ou numéro 1 bis. Donc, Lopez, s'il n'a pas le brassard de capitaine, je pense que c'est plus parce qu'il est gardien de but que son histoire de prolongation. Dubois, pourquoi pas. C'est vrai que moi je mettrais aussi un grand billet sur Memphis. Je sais pas pourquoi, mais parce que, alors en sachant qu'il est, on nous dit de l'intérieur qu'il fait une préparation pour l'instant assez
à son rythme.
Non, mais assez bien en fait. Voilà, très très concerné. Voilà.
Ben pour moi, je pense que le concerner encore plus. Après tout, c'est ton meilleur joueur.
Ouais.
Faut y aller, quoi.
Il y a plus Nabil Fekir, alors que l'année dernière, peut-être, il pouvait y avoir un jeu entre les deux. Pourquoi pas? Surtout que l'année prochaine, il y a l'Euro 2020 et qu'avec les Pays-Bas, il veut faire quelque chose.
Ouais.
Voilà, pourquoi pas, hein.
Pourquoi pas, Edouard?
Mais c'est vrai que Denayer aussi a la possibilité de le devenir.
De se poser la question. Et puis, de toute façon, on aura un élément de réponse dès vendredi pour le match d'ouverture. On n'a pas fini sur Lyon du tout. On a une dernière question à poser à Edouard. Tu nous parlais tout à l'heure de cette conférence de presse en portugais qui était difficile à comprendre. Alors avec un coach lusophone, il faut une traduction pour les joueurs. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est aussi peu clair avec les joueurs qu'avec les journalistes.
Alors c'est assez étrange parce qu'en fait donc là on a assisté à une partie de l'entraînement, une grosse vingtaine de minutes, et il y avait une partie où il y avait une mise en place un petit peu, et là on voyait un Silvinho au milieu de son groupe très énergique, allant d'un coin à l'autre en remettant des ballons, en disant voilà il faut que un tel tu donnes le ballon comme ça pour le redonner à un tel, voilà, c'était vraiment de la mise en place limite à l'italienne, Daniel, avec un cordeau là, même si le cordeau n'y était pas. Et surtout, donc, il y avait toutes les images qu'il donnait, mais tous les bruits aussi, tous les mots qu'il sortait, il les sortait en brésilien et qui était là très peu à un petit mètre de lui pour traduire en immédiateté Claudio Cassapa. Alors donc c'est vrai que le temps que un ballon arrive, Claudio traduise ce que dit Silvinho, bien le ballon était déjà dans les pieds d'un autre.
Il paraît qu'il va super vite et qu'il reproduit même limite le son de la voix, Cassapa.
Exactement. Ouais, il le suit, c'est assez marrant. Donc il y a cet aspect en brésilien. Donc là Claudio traduit en français pour l'essentiel du groupe, mais des fois Silvinho parle en brésilien directement avec les brésiliens, que ce soit Marcelo ou Thiago Mendes ce matin, et puis parfois, ben voilà, il met un petit peu une phrase d'anglais. Du coup, Claudio s'arrête, mais peut-être qu'aussi il traduit certaines fois. C'est voilà le message, et on se demande comment ça peut se passer à terme tout ça. Pas d'inquiétude, hein, parce que ce matin c'était qu'une vingtaine de minutes, c'était un moment un petit peu particulier, presque du tableau noir sur grand écran, on va dire sur le terrain. Mais c'est vrai que ça peut, pourquoi pas, poser quelques soucis à terme. Mais il l'a dit, Silvinho, il veut très rapidement parler français, que ce soit avec ses joueurs ou avec la presse.
Edouard, une petite question juste deux secondes par rapport à la conférence de presse, entre ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris, est-ce que j'ai cru moi entendre qu'il s'était positionné sur le plan tactique en disant qu'il allait plutôt s'adapter à l'adversaire et qu'il n'y avait pas de schéma tactique établi, en tout cas dans son idée là sur cette fin de préparation. Et c'est ce qui en est ressorti ou pas?
Oui, bah c'est un peu une partie un petit peu floue de la conférence de presse, parce que je te parlais du traducteur qui n'était pas forcément au fait du 4-3-3, 4-2-3-1, etc., etc. Du coup, il avait du mal un petit peu à traduire. Du coup, Silvinho sentait qu'il fallait un petit peu redire des choses. C'est pour ça qu'à la fin, il a dit voilà, non, une chose est sûre, je ne travaillerai pas avec 5 défenseurs. Donc, défense à 5 avec lui, jamais. Et puis après, voilà, il va s'adapter. Donc, on n'est plus sur le 4-3-3 carré comme il l'avait imaginé, comme on l'avait senti lors de cette conférence de presse.
Ouais, c'est la seule chose qui me dérange, moi, un peu. C'est
s'adapter à l'adversaire.
C'est des philosophies différentes. Hein. Il y en a qui moi, quand tu es l'Olympique Lyonnais, j'ai plus l'impression que tu dois imposer quelque chose à ton adversaire plutôt que de t'adapter.
Je sais pas si c'était clairement dit.
C'est
comme
ma vision.
Daniel, t'as bien raison.
Je pense pas qu'il.
Aujourd'hui, j'ai pas trop.
C'est pour ça que je te pose la question.
Pour terminer, ce matin dans la conf, il y avait quand même un truc essentiel. Je l'ai dit lundi, mardi, donc normal que Silvinho le dise le lendemain. Il a besoin de deux joueurs, évidemment.
Oui, il a besoin
d'un
défenseur polyvalent.
Je le dis depuis le début de la semaine.
Polyvalent et puis un milieu de terrain. Donc là aussi, il n'a pas voulu trop.
En revanche, c'est là que je ne comprends pas. Il veut un défenseur de plus. Et moi, j'aurais misé sur un joueur créatif de plus.
Je pense que tu n'as pas trop de certitude. Ils ont tenté un coup avec Andersen. Vu ce que tu vois, je pense qu'ils se disent...
Je crois qu'ils ont
anticipé le coup.
Il a aussi mis en avant pas mal de jeunes de la formation pendant cette conférence de presse. Et sur les joueurs offensifs, c'est peut-être sur eux qui va compter Silvinho. En tout cas, on parle.
Sachant qu'au milieu, il y a Maxence Cacré qui visiblement a marqué des points pendant la préparation.
Je pensais notamment à lui. Alors, en termes de philosophie, Silvinho n'a pas fait très original. Écoutez-le, à ses yeux, la manière comptera plus que le résultat.
On travaille sous la pression tous les jours, mais je n'y pense pas. Je me concentre seulement sur les joueurs, sur mon équipe. Je m'en fiche de ce qu'on dit sur mes méthodes, qu'elles soient différentes. Par exemple, je ne vois pas que par le résultat, même si c'est très important. Quand on gagne ou on perd un match, je dois me préparer à répondre, à expliquer pourquoi on a obtenu ce résultat. Ça fait partie de mon travail. Je dois travailler sous cette pression tous les jours.
Under pression every single day. Voilà, il se débrouille pas mal en anglais. Il pourrait aller faire en anglais ses conférences de presse. Ce serait peut-être plus direct avec les journalistes. On va prendre Mehdi qui nous a appelé au 32-16, qui est supporter de l'Olympique Lyonnais. Salut Mehdi.
Salut Timothée, salut tout le monde.
Salut Mehdi. Salut. Alors, pour toi, il y a un objectif très clair cette saison qui va au-delà des lignes dans le palmarès ou quoi que ce soit. Explique-nous.
Bah, pour moi, l'objectif entre guillemets principal de cette nouvelle ère entre guillemets, parce que là, l'ère des Brésiliens commence, ça va être juste pour moi, pour commencer, juste déjà en termes de résultats, c'est réduire l'écart avec le PSG. On peut pas être à fin septembre être déjà à 12-15 points comme depuis 2-3 ans. On est largué à chaque fois. Daniel, il a raison là-dessus. Moi, ça me fout en run de voir le classement que à la fin du mois d'août l'année dernière, on avait perdu déjà 2 matchs au bout de 4 journées. Donc là, cette année, il faut vraiment enchaîner, prendre les points dès le début, mettre en place quelque chose. Alors, est-ce que Silvinho va avoir le temps de mettre en place, parce que on commence déjà à le fracasser un peu dans la presse. Voilà, malheureusement, à mauvais escient, parce que pour le moment, les matchs de préparation, on s'en cogne un peu. L'important, c'est de mettre en place quelque chose. Donc, l'objectif, pour moi, ça va être ça dans un premier temps. Et le second objectif, c'est d'arrêter d'être à chaque fois de faire des fins de faire des débuts de saison à chaque fois catastrophiques, quoi. Après, on rame pour lutter, pour revenir. À chaque fois, on finit troisième, on dit, ouais, l'objectif, il est atteint. Si tu mets pied au plancher dès le démarrage, il y a moyen d'être, de mettre la pression sur le PSG, pour pas que le championnat soit moyennasse, quoi. Je veux dire, c'est pas un bon championnat d'avoir une seule locomotive et d'avoir tout le monde derrière à 20 points à fin octobre. C'est pas un championnat digne de ce nom, quoi. Si on veut prétendre être un grand championnat, eh ben, il faut que toutes les autres équipes derrière collent le PSG au train pour que ce championnat soit meilleur, tout simplement.
Messieurs, ça vous semble envisageable, voilà, ce que souhaite Mehdi, à savoir voir le PSG aller peut-être pas concurrencer le Paris Saint-Germain sur l'ensemble d'une saison, mais rester collé au Basque le plus longtemps possible.
Finir à 20 points, c'est pas possible que tu aies encore. J'allais dire que tu perdes les deux matchs contre le PSG, mais Lyon, ils les perdent même pas, les deux matchs contre le PSG. Donc il devrait être bien plus près et puis exister dans les coupes et puis globalement plus présent sur le terrain, quoi. Et évidemment qu'ils ne peuvent pas se contenter d'être juste dans les clous. Et en plus, les clous, souvent, on nous les survend un peu, parce que l'année dernière, que je sache, ils ont fini derrière Lille, ce qui est en soi un petit échec. Et les clous, ouais, ok, huitième de finale, c'est des bons clous en Ligue des Champions, mais dans un groupe qui n'était pas non plus méga, méga relevé. On peut pas non plus en faire des tonnes. Moi, je pense que Lyon doit faire beaucoup plus, doit redevenir un acteur en Europe. Peut-être pas un acteur majeur. Ils ont peut-être pas assez d'argent pour être demi-finaliste, mais bon, ils ont quand même un budget de, selon OLAS, de 200. Même s'il est plutôt vers 300, ça doit permettre de viser beaucoup plus haut. Moi, j'attends l'année prochaine, parce que visiblement, ce sera pas cette année, mais un gros transfert, un truc à 50 millions, je sais pas.
Ludo,
il faut que ça pète.
Hein, Ludo, cette équipe a perdu des points parce qu'elle était souvent sur courant alternatif, notamment face à des petits.
Bien sûr.
Et pourtant, cette équipe a perdu des joueurs cadres, Fekir, Ndombele. Comment soigner cette sinusoïde qui suit l'Olympique Lyonnais au fil d'une saison? Comment soigner ça avec un effectif neuf?
Soigner ça c'est les joueurs qui ont la clé et le coach. C'est pour ça qu'il y a eu un changement de coach, c'est qu'il y avait trop d'irrégularités dans les matchs dits entre guillemets moyens. Dans les gros matchs, Lyon a pas été ridicule, puisqu'ils ont battu ont battu le Paris Saint-Germain. À partir de ce moment-là, on peut déterminer que certains joueurs choisissent leur match ou qu'ils ont pas une concentration qui est
l'état d'esprit global qui est pas positif,
et pas satisfaisant. Ouais. C'est pour ça que après, il y a un nouvel entraîneur qui arrive. On l'a répété, il y a des joueurs majeurs qui sont partis. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, le plus gros transfert pour l'instant, c'est Juninho. Donc, sauf que Juninho, il est pas sur le terrain. Donc, est-ce que la mayonnaise va prendre de suite? Est-ce que Memphis va prendre les choses en main? Est-ce que derrière De Nayer, Andersen, ça va coller? Est-ce que Koné va réussir à combler les apports offensifs de Mendy? Tu vois, il y a tout un questionnement. Est-ce que Aouar aussi va prendre plus d'ampleur?
Marseille, si jamais Andersen, ça devait pas. Mais encore, il y a même pas un match qui a été joué, donc on peut pas non plus savoir si Andersen ça va coller
Marcelo,
ou pas.
Il te...
Non mais des solutions, il y en a. Il y a tout ça en défense. Ça a aussi marché.
Si tu veux qu'à un moment donné Lyon passe un cap, oui, comme on voudrait qu'il le passe, oui, il faut des joueurs d'une autre stature.
Oui,
donc,
oui.
Moi, j'attends de voir, mais j'ai peur que il va falloir que les supporters lyonnais soient peut-être un petit peu patients, parce que c'est le démarrage d'un nouveau cycle et que tu peux pas attendre comme ça en ayant perdu Fekir, Ndombele
principalement ça.
Et Mendy. Et Mendy.
Oui, principalement.
Pour moi, ça a pas été vraiment remplacé, donc il va falloir peut-être un peu de temps.
Merci beaucoup Mehdi d'avoir été avec nous pour parler de l'Olympique Lyonnais. On va donner la parole rapidement à Lilian. Lilian, on a l'impression que tu es un petit peu à contre-courant du sentiment général des supporters. Tu as trois experts pour poser la question, puisqu'Edouard est toujours avec nous.
Ouais, salut l'équipe. Je voulais intervenir par rapport à ça parce que Sévigno, on ne sait pas qui il est exactement. Il va falloir leur laisser un petit peu de temps parce que il arrive, il est là, il débarque. Juninho, très bien, pas de souci. Le recrutement jusque là, il est cohérent. Maintenant, il va falloir leur laisser un petit peu le temps de rentrer un petit peu dans le championnat, de voir qui ils ont en face d'eux. Si je me réfère un petit peu à ce qui a été dit dans la presse, Juninho a vu 8 matchs de l'Olympique Lyonnais. Il peut pas non plus du jour au lendemain tout révolutionner. Donc, il va falloir être patient, il va falloir
c'est ce que tout le monde dit ici, Lilian. On pense tous la même chose là-dessus.
Mais alors, justement, Lilian, on va poser la question à Edouard. Est-ce que la communication du club va dans ce sens? On a entendu Jean-Michel Aulas ces derniers jours, notamment sur l'antenne d'RMC. On a entendu Juninho s'exprimer. Est-ce que le board de l'Olympique Lyonnais demande de la patience et protège pour le moment Sylvinho, qu'on sent déjà parfois, comme le disait notre auditeur précédent, un petit peu attaqué?
Oh, je pense pas qu'il est tant attaqué que ça. Alors, j'étais trois semaines en vacances, donc j'ai pas forcément tout lu dans le détail, mais les souvenirs qui me restent, c'est pas forcément une attaque en règle. J'ai entendu, il me semble, Jean-Michel Aulas parler d'une dizaine de matchs pour faire le bilan. Sylvinho avait dit également ça, rendez-vous peut-être fin septembre. Il y aura déjà eu, je crois, un match face à Paris. Et puis ce matin, il a parlé de 3-4 matchs pour faire tous ces ajustements. Voilà. Et alors après, peut-être que vendredi, il va y avoir une grosse catastrophe et tout ce que je vous dis, ça va être remis. Voilà. Mais en tout cas, il y a cet aspect vraiment d'une énorme préparation physique durant ce mois de juillet qui peut peut-être avoir planté un peu certaines jambes avant des matchs. Voilà. Et ce sont des matchs de préparation. Voilà. Donc c'est vrai que après, il y a une prise de risque assez énorme, c'est un peu quand même un rendez-vous en terre inconnue pour l'OL avec tous les changements qu'il y a.
Ce que vient de dire Dudou, c'est que il faut leur laisser un petit peu le temps. Sylvinho, on ne sait pas d'où il débarque, on ne sait pas comment il va marquer cette équipe, on ne sait pas exactement comment il va le jouer, comment il va s'adapter au championnat français qui est un petit peu particulier. Maintenant, il va falloir que les supporters lyonnais soient un petit peu patients. Les recrutements jusque-là, on est tous d'accord pour dire qu'ils sont judicieux. Yeah. Maintenant, laissons faire, voyons déjà ce que ça va donner vendredi soir contre Monaco, et après, il sera temps de dire un certain nombre de choses, mais il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Je crois que Sylvinho a besoin d'un petit peu de temps pour s'adapter à un championnat qu'il ne connaît pas. Alors, ok, Juninho, c'est une légende du club, et il amène son crédit.
Lilian, si je peux me permettre, j'aimerais avoir ton avis, mais ma pensée, il y a deux choses que j'ai entendues, une très récemment aujourd'hui par Sylvinho et une par Juninho il y a quelques jours. Juninho était pas content, donc il a tapé du poing sur la table par rapport à la manière, l'engagement, l'état d'esprit et tout ce qui va avec et tout ce qui est lié à ça. Et aujourd'hui, Sylvinho, il y a une chose qui me paraît aussi intéressante dans son interview, c'est qu'il a dit qu'il favoriserait la manière, ou du moins qui sa philosophie, c'est que avec la manière, il y aurait plus de chances d'avoir de résultats. Gagner. Donc, c'est deux choses qui, à mon avis, vont dans le bon sens. Et je pense que vous, supporters lyonnais, au-delà des résultats de suite, vous seriez content déjà que les joueurs montrent un investissement total et essayent de créer des automatismes du jeu. Je pense que ça suffirait à votre plaisir, en tout cas sur ce début de championnat.
Dès vendredi soir, il faut que, au-delà du résultat, on sente que Lyon va être un patron dans la Ligue 1.
Un petit peu dans l'analyse, c'est que si les joueurs adhèrent complètement au jeu de Sylvinho, qui est une défense du début jusqu'à la fin, dans le championnat français, ça peut le faire. Je crois qu'on est on est tous d'accord là-dessus. Daniel pourra confirmer ce que je suis en train de dire. Ça ne peut qu'avancer dans le bon sens. Maintenant, c'est aux joueurs de s'impliquer là-dedans aussi. Il n'y a pas que Sylvinho, il n'y a pas que Juninho, il n'y a pas que Jean-Michel Aulas. C'est les joueurs aussi à s'impliquer là-dedans.
Oui,
quand vous parliez du capitaine tout à l'heure...
C'est aussi des joueurs qui doivent suivre un entraîneur.
Mais exactement. Vous parliez du capitana qui serait donné à... Ah bon sang, son nom m'échappe maintenant.
Dubois, Memphis. Dubois, Memphis. Pardon, on a parlé de Dubois, Memphis.
Memphis Depay. Donner le capitaine à Memphis Depay, pour moi, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Ce jour-là est un électron libre. Laissons-le comme un électron libre. Faisons-le parler comme un électron libre. Mais
pourquoi pas.
Pour moi, Dubois est plus dans ce truc-là.
Dans ce moule-là. Merci beaucoup, Lilian, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Edouard, également, pour ton expertise sur l'Olympique Lyonnais. À très vite. Très bon début de saison avec l'Olympique Lyonnais, avec l'AS Saint-Etienne. On revient dans une petite minute pour vous parler du TFC. Où va le TEF? Une pente glissante. On a l'impression que ça fait des années que ça dure. À tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Timothée Mémon.
23h28, c'est l'after. On va pas tarder à rentrer dans la dernière demi-heure de cette émission. Tout à l'heure, il y aura un quiz sur les grosses déceptions en tour préliminaire de l'Europa League. Ce qu'on ne souhaite évidemment pas au Racing Club de Strasbourg qui affronte demain, vous le savez, le club de Plovdiv. Et ce sera à suivre en direct à 19h30 demain dans l'after également. Une grosse page sur les transferts anglais. Mais avant cela, on va parler du TEF, le TFC sur une pente glissante. En tout cas, c'est la sensation qu'on a en observateur externe. Il y a une seconde, on était à Lyon avec Edouard Jay. On va se pencher sur cette situation de Toulouse et pour en parler, les yeux de l'agence RMC Sport en région. Lui aussi fait partie de ce réseau de reporters disséminés un peu partout en France qui nous permettent de vous faire remonter un maximum d'informations tout en étant au plus près des clubs. Le régional de l'étape, c'est Wilfried Templier. Bonsoir Wilfried.
Salut les gars.
Salut Wilfried.
Salut, j'en profite parce que voilà, quand on présente les équipes, on parle du TEF et après, je vous vois plus de l'after de toute l'année. Donc,
Ouais, c'est pas faux.
On y tenait à faire de la place à.
Bien, t'as une demi-heure. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, j'ai qu'une seule question sur le TEF. Hein. Tu veux que je l'évacue maintenant comme
Allez, vas-y, fonce. Allez, vas-y.
Comment Gradel est encore au TFC?
Ah, ça, c'est le miracle. Hein. C'est...
Ah, ça, c'est hallucinant qu'aucun club se soit mis sur Gradel pour lui proposer un projet qui, c'est forcément, eût été mieux que le TFC.
Bah, ça fait 2-3 ans qu'il porte le club à lui tout seul. Hein, meilleur buteur, meilleur passeur, capitaine, tireur. Mais ouais, c'est incroyable. Mais même quand il est venu, hein, il y a 2 ans, c'est dingue. Hein. Je pense qu'Olivier Sadran.
T'as pas la réponse à ça. Qu'est-ce qu'il lui a promis? Des côtes de bœuf?
Non, mais je pense qu'il a une relation avec le président.
C'est sûr qu'il va rester?
Ouais. Il s'est mis d'accord avec Olivier Sadran hier. Alain Casanova l'a confirmé tout à l'heure.
Il est capitaine, il reste.
Voilà, dans la
réunion. Il doit y avoir un truc, il doit lui filer des primes spéciales et tout, je sais pas.
Bah non, mais il y a pas trop d'offres.
Les autres clubs ne sont pas positionnés.
C'est pas possible, t'es un Gradel, tu le prends quoi.
Bah ouais.
Mais même l'OM, il est titulaire à l'OM.
Mais c'est ce qu'il nous disait au printemps.
Il exagérait un peu au printemps en disant qu'il pouvait être titulaire dans tous les clubs de Ligue 1, y compris le Paris Saint-Germain.
Pas ce qu'il voulait dire.
Mais à l'OM, il est titulaire.
Il a un rôle à jouer.
Dans 19 clubs de Ligue 1, il serait titulaire.
Je sais pas ce qu'il disait.
Combien il en veut, Wilfried?
Dans 17, il est, ouais.
Mais il lui reste qu'un an de contrat, donc c'était.
Je comprends pas. Il faut lui demander à lui. Envoie-moi son numéro, je vais lui demander.
Allez, c'est parti.
Wilfried, on va dérouler. On a l'impression que en ce début de saison, avec ce mercato qui a un petit peu débuté fort avec Vainqueur et Makengo qui ont rejoint le club, puis Koulouris, puis Saïd, et puis finalement, on a cette impression un petit peu d'une chape de plomb sur ce club toulousain. Et on a l'impression que chaque année, c'est un peu la même chose. Il commence à avoir un peu de pression sur Alain Casanova.
Oui, franchement. C'est ce qui s'est dit là, à l'intersaison. Vous savez que Olivier Sadran l'a fait revenir l'année d'avant, l'été d'avant, pour stabiliser un peu tout ça, pour remettre de l'ordre dans la maison TFC. Parce que si vous regardez les dernières années, 17e, 17e, 13e, 18e et 16e l'année dernière. Donc voilà, ça n'a pas eu d'effet. Hein. C'était au grand dam des supporters qui ne voulaient pas entendre parler de Casanova, notamment par rapport au jeu. Mais franchement, oui, il y a une vraie pression sur ses épaules. Il se dit, il se murmure que si ça va pas, on ne pourra pas refaire la même saison à Toulouse. Je vous rappelle, hein, 16e, 38 points seulement, 8 victoires seulement, 4 points d'avance sur le barragiste. Et puis voilà, un jeu assez pauvre.
Justement, Wilfried, sur le jeu, on parle de pression sur Casanova. Est-ce qu'il a aussi une pression au-delà du résultat sur ce qu'on doit proposer au stadium pour essayer d'enfin emmener les Toulousains au stadium voir du foot?
Mais tu les emmèneras jamais, Bouillon.
Ah, peut-être que si un jour ils font, bah,
il a essayé, il a du boulot, il a essayé en début de saison, il a essayé, mais c'est ça qui est dingue.
Wilfried.
Et il est revenu avec des bonnes dispositions, bien sûr, avec
c'était
du jeu et tout.
Bien parti la saison dernière.
Et dès que ça a commencé à craquer, alors il en parlait ce soir, le match de Saint-Etienne en mois de septembre où il perd 3-2 avec des erreurs monumentales. Et derrière, ça s'est fragilisé et ben lui-même, avec l'équipe, ils se sont recroquevillés. Et voilà, on a revu le jeu défensif du Toulouse Football Club alors qu'il y avait des vraies intentions dans la possession. Dans l'attaque et donc oui il y a du boulot parce qu'il y a une vraie fracture avec ce qui reste de supporters à Toulouse parce que les affluences au stadium ne sont pas bonnes donc voilà c'est le point d'interrogation cette année avec tu as parlé du recrutement un Toulouse Football Club assez armé offensivement puisqu'on a gardé Gradel on a fait signer Westé Saïd alors c'est pas voilà c'est pas 4 buts seulement les dernières à Dijon on a mis 8 millions d'euros sur Westé Saïd Non, mais il y a des paris. Koulouris. Parce que Koulouris, qu'est-ce qu'il va donner en Ligue 1 ? Meilleur buteur du championnat grec, 25 buts, toute compétition confondue.
25 buts en 35 matchs, la saison dernière, oui.
3,5 millions d'euros, 23 ans.
Tu crois qu'on
n'a
pas vu venir le meilleur buteur du championnat grec qui vient chez nous et qui met pas 3 buts ?
Ouais, hein, c'est une vraie peur. Hein,
c'est... Non, mais quand t'es Toulouse, quand tu vis, parce que, on va le dire, ça fait un moment, ce club traverse notre championnat dans l'anonymat le plus complet. Je ne me souviens pas, la saison dernière, d'un match de Toulouse qui ait pu m'emballer, pas un. Alors, ce club est tombé dans un anonymat. D'autant plus que la culture de la région s'oriente plus vers le rugby.
Anonyme au foot de Toulouse, y a pas.
Mais bon, fais au moins des recrutements. Va pas chercher un mec dont tu t'as besoin de revenir à des valeurs un peu plus sûres, à faire des coups un peu plus entre guillemets. Il y a jamais de coup certain, mais aller chercher un mec.
Ah, le joueur expérimenté de Ligue 1, le fameux.
Bah oui, essaye de te refaire un effectif avec 2-3 mecs qui tournent bien dans les clubs, des mecs sur qui tu peux t'appuyer, des mecs comme Gradel d'ailleurs. Gradel, c'est l'exemple type du mec sur qui il faut s'appuyer.
Et au milieu, justement, Ludo, Vainqueur, Makengo, c'est pas des profils.
Ouais, Vainqueur,
qui...
on sait pas, mais Vainqueur, ok. Moi j'aime beaucoup le joueur, mais dans quel état? Si, ça va, c'est pas mal. Il était revenu à l'OM, ça avait été plutôt pas mal avec Romao, c'était bien. Moi, après, dans quel état il est? Ça veut dire qu'il a, il revenait de Turquie.
D'Antalya Sport.
Voilà. Il arrive, il joue pas à Monaco, il a quasiment pas joué. Donc c'est le nom est plutôt intéressant, mais dans quel état il est?
Ouais. Wilfried, question un peu piège. On a parlé évidemment avant le début de l'émission de ce qu'on allait aborder. J'étais ce week-end à un mariage à Cluj, ça n'a aucun intérêt, mais je discutais avec un supporter toulousain qui me disait qu'il y avait quand même de plus en plus de oui absolument. C'était un mariage franco-roumain, donc il y avait des pas mal de Français. Il me disait qu'il y avait plus en plus de voix qui s'élevaient en disant vivement que le TEF descende, qu'il y a un grand coup de balai pour pouvoir repartir de zéro. Est-ce que tu as la sensation que ce discours, qui est quand même un peu alarmiste, venant de supporters qui sont censés s'enthousiasmer. Est-ce que tu as l'impression que ce discours prend un petit peu
Ils sont vraiment désespérés, certains supporters du Toulouse Football Club. Ils sont parfois durs, parce que faut faire avec les moyens du bord aussi, qu'il y a un déficit structurel, il l'expliquait, ça range chaque année de 7-8 millions d'euros. D'accord. Par l'affluence, le marketing, la vente de maillots, ça prend pas. Donc il faut vendre des joueurs, des jeunes, pour résorber ça. Mais oui, il y a un désamour. Alors de là à descendre... Là, attention, parce qu'il y a des clubs qui restent longtemps après, ou qui vont plus bas.
Wilfried, le budget, est-ce que, par exemple, Toulouse aurait pu se positionner cet été sur des joueurs comme, je sais pas, Flavien Thé? Est-ce que ça peut se positionner sur un joueur comme...
Qu'est-ce que ça va se positionner,
financièrement,
le joueur ne veut pas aller là-bas? Et le joueur, il trouvera toujours un projet plus intéressant.
Le joueur, il regarde d'abord sur le plan financier. Si tu proposes un peu plus qu'ailleurs, le joueur, il réfléchit. Ça, c'est une certitude. Est-ce que, par exemple, ça peut convaincre financièrement un joueur comme Atem Ben Arfa, par exemple, qui a pas de club? Est-ce que ça peut tenter financièrement? Est-ce que je dis pas que c'est pas vraiment le profil, mais.
Non, mais ils en voudront jamais.
T'as besoin de revenir à des joueurs qui t'amènent un peu plus de spectacle, qui t'amènent un peu plus d'envie de venir au stade, de venir le TFC, c'est une équipe où, bah, putain, à part Gradel, putain, techniquement, il se passe rien dans le jeu, rien. Il y a pas de spectacle. Est-ce que finalement c'est dans l'orientation que prend le TEF par rapport à son choix de joueur?
Est-ce que
déjà sur ma première question, est-ce que tu peux financièrement faire des coups qui sont...
Oui,
tu peux.
Oui, ah. Oui, parce que il y a une bonne gestion. Je vous parlais de ce déficit, mais il y a une bonne gestion à côté de ça. On arrive il y a deux ans avant de Issa Diop 25 millions d'euros. Ouais. Et on va certainement parler grâce à la formation, grâce au et ils vont insister là-dessus là dans les années à venir. Ils le faisaient déjà, mais voilà quand il y a Ben Yedder qui est passé, même s'il n'a pas été complètement formé à Toulouse, mais il a quand même été lancé par Casanova à Toulouse. Voilà.
Mais tu vois ce type, et il y en a d'autres qui arrivent. Ce type de joueur a contribué quand même à ce que les gens reviennent un peu. Le fait qu'il y ait Ben Yedder, tout ça, cette période-là avec Elmander aussi, qui avait Gignac. Quand tu avais ces joueurs-là, le public commençait quand même à revenir.
Ouais, mais il y a eu des erreurs. Je pense qu'il y a eu des erreurs de recrutement, de gestion, et ils l'ont payé cash, hein, très cher. Hein.
Alors justement, on parlait de plaisir au TEF. On est avec François, qui est supporter du TFC. Bonsoir François.
Bonsoir à tous. Bonsoir Daniel. Bonsoir Ludo.
Merci d'être avec nous. On le remarque, on regarde la Ligue 1, on se déplace dans les stades, on va commenter des matchs au TFC. Ça m'est arrivé. Le stade est vide. Quel est le premier objectif d'Alain Casanova ? C'est d'emmener cette équipe dans la première moitié de classement ou de faire du jeu ?
Comme vous l'avez dit précédemment, je pense que ce qu'on attend à Toulouse et l'objectif de Casanova, ce sera déjà de retrouver du jeu. Quand on voit évoluer cette équipe, ça fait depuis des années maintenant qu'on voit plus rien à Toulouse, qu'on se tape purge sur purge. Donc, je pense que l'objectif de Casanova est pour tous les supporters, c'est on demande pas grand-chose, juste reprendre du plaisir, avoir évolué. Mais son équipe de pas
François,
sortir
est-ce que c'est vraiment le bon entraîneur pour ça, François?
J'ai encore perdu une heure et demie à regarder Toulouse, quoi.
François, est-ce que c'est vraiment le bon entraîneur pour ça, Alain Casanova? Est-ce que c'était une si bonne idée que ça que de le faire revenir?
C'est vrai que quand on a appris qu'il revenait, on a tous été surpris. Il avait parlé de renouveau.
Et il y a plein de supporters qui réclamaient Pélissier, aussi. Hein.
Pardon?
Il y a plein de supporters qui réclamaient Pélissier.
Et Pélissier,
on voit qu'il part à Lorient en Ligue 2 aujourd'hui, on se pose quand même des questions. Ouais. Donc, Casanova, est-ce que c'est le bon entraîneur pour ça? J'ai envie d'y croire encore un peu, parce que l'an dernier, quand il est revenu, au début de la saison, on a fait des matchs avec du jeu, on a pris plaisir un peu pendant le premier mois d'août, on a enchaîné quelques bons matchs, et puis tout d'un coup, ça a disparu. Donc, je pense qu'il aime bien le football espagnol, Casanova, donc il a ça en lui, mais bon, pour moi, ça fonctionne pas. Donc, on a encore un peu espoir. On se dit que là, bon, la première saison, il est revenu, il a tâtonné. On espère que la deuxième, ça va venir. Mais encore une fois, ça va être difficile. En plus, on a perdu les joueurs les plus techniques qu'on avait, Durmaz, Manu Garcia. Donc là, bon, le recrutement, vous en avez parlé, Saïd, c'est intéressant. Mais bon, on est encore quand même un peu inquiet.
Merci beaucoup François, on espère te souhaiter quand même une excellente saison et que tu prendras du plaisir au stade. Ce plaisir, il passera peut-être par les jeunes. Cette équipe de Toulouse, elle a été la saison dernière finaliste de la Coupe Gambardella contre Saint-Etienne, finaliste malheureux, mais finaliste tout de même. Écoutez Alain Casanova parler justement de l'intégration des finalistes dans le groupe TFC cette saison.
On a pensé que ces joueurs-là devaient se rapprocher du groupe professionnel parce que il y a deux facteurs qui sont très importants pour la progression des jeunes. C'est le premier, le contact de réels professionnels sur un plan technico-tactique, sur un plan athlétique, sur un plan mental. Et puis ensuite, c'est l'intensité des entraînements. Donc, cette dizaine de joueurs qui ont pour la plupart signé leur premier contrat professionnel font partie du groupe professionnel, mais en étant un groupe élite qui s'entraîne le matin en fonction des besoins, qui s'entraîne le matin avec les professionnels et qui reviendra quatre fois par semaine les après-midi avec le staff professionnel et le staff du centre de formation pour travailler, que ça soit de manière collective ou de manière individuelle en fonction des besoins de chacun.
Alain Casanova qui était au micro de Benoît Boutron tout à l'heure dans le RMC Football Show. Wilfried, c'est on va dire l'éclaircie côté toulousain, ces jeunes.
Mais c'est sur quoi ils doivent tabler en fait, parce que pour les supporters ça parle aussi quoi de cette formation. Et puis il y a pas grand chose à mettre en avant justement au TFC. Mais si vous dites à vos supporters voilà on va lancer les jeunes, c'est les jeunes du cru, on va se battre avec eux, on va leur donner leur chance, ils ont du talent, ça peut peut-être marcher. Bon après faut qu'ils passent le gap un peu, c'est sûr. Mais on l'a vu ces dernières années, on en a vu comme ça hein, des Sissoko, des Tabanou, des Capou avec plus ou moins de réussite à chaque fois. quand même des beignets d'eau, on le disait. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a eu l'année dernière avec Diakité en défense centrale, avec Sidibé au milieu de terrain. Il y en a d'autres qui arrivent, Adil Taoui devant, Stéphane Zobo. On parle beaucoup de Manu Koné. C'est un international U19, milieu défensif. On nous glisse que quand je vous parlais des 25 millions d'euros de la vente de Diop, s'il y a quelqu'un qui peut à l'avenir peut-être battre ce record, ce serait lui. Il y a énormément d'espoir sur lui. Et donc voilà, ils ont créé une élite, un groupe de 10 joueurs élites qui sont intégrés à l'équipe professionnelle et puis voilà, qui travaillent aussi l'après-midi avec les entraîneurs du club. C'est le fonds de commerce du TFC.
Rien de révolutionnaire. Tous les clubs font ça.
Oui,
révolutionnaire. Non.
Voilà.
Merci beaucoup, Wilfried, d'avoir été avec nous pour nous parler du TEF. On te souhaite une excellente saison avec ton club également, avec l'équipe de rugby. À très bientôt dans l'After. Dans quelques instants, on revient, messieurs, pour jouer avec le quiz. Il y aura deux auditeurs avec nous et la possibilité, évidemment, de gagner des places de ciné. On revient dans un instant avec également quelques informations subsidiaires. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, on est de retour dans l'After pour le dernier quart d'heure, la dernière ligne droite pour vous faire gagner la possibilité d'aller voir Gangster, le flic et l'assassin, un thriller jouissif avec des gangs qui se tirent dessus, des inspecteurs, des méchants qui s'associent les uns les autres, ça a l'air pas mal du tout et on va vous faire gagner deux places, les deux.
Si c'est jouissif, normalement c'est pas mal,
pour jouer avec nous, on a Mathieu qui est supporter de la SADT et Mohamed, supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir, salut l'équipe.
Salut.
Alors, puisque tu as un excellent goût en matière de football et que tu supportes l'AS Saint-Etienne, tu auras le droit de choisir avec qui tu vas jouer pour cette rencontre. Le choix entre Ludovic Obraniak ou Daniel Riolo.
Allez, je vais prendre Ludo.
Allez, Ludo jouera donc avec Mathieu et Mohamed, tu seras avec Daniel, évidemment.
Alors, bonsoir à tous.
Bonsoir Mohamed, Mathieu.
Alors, c'est pas galon ce quiz à 13 minutes.
Non, ne t'inquiète pas, on a des petites informations subsidiaires à commenter à la fin de ce quiz.
C'est des hommes calibrés.
Je vous rappelle simplement le thème, ce sont les éliminations qui ont fait très mal face à des équipes pour le moins exotique en barrage ou tour préliminaire de l'Europa League ou de la Ligue des Champions. Voilà pour le thème. Pour nos deux auditeurs, vu que vous n'êtes pas en plateau avec nous, vous m'interrompez en donnant votre prénom, puis la réponse. Sinon, ce ne sera pas validé. Nous allons donc commencer avec la première question. Je suis le club le plus titré de l'histoire de mon pays avec 15 titres. Je joue en jaune et en violet. Je me qualifie pour la...
Mohamed. Anderlecht.
Non. Je me qualifie pour la première Coupe d'Europe de mon histoire, la C2 en 92. Je joue dans la deuxième plus grande ville de Slovénie. J'ai éliminé l'OL au tour préliminaire de la C1 en 1999. Mathieu.
Maribor.
Maribor, ça marche, Mathieu. Bien joué.
Mathieu.
Avec moi, Mathieu.
Non, il a dit Maribor. Je lui valide le petit lapsus.
Mais ça veut dire qu'on peut aller dans les vieux trucs.
Depuis le début.
Alors, c'est sur les 30 dernières années. Ah ouais. C'est pas non plus extrêmement vieux.
D'accord.
Ok.
D'ailleurs,
je pensais que t'allais faire que sur les clubs français.
Petite question. Lyon, c'est pas un club français?
Ouais, mais bon.
Alors, attends, ce qu'il faut trouver. Oui, d'accord. Donc, c'est les fameux clubs qui ont tapé des clubs français.
Ouais. Exactement.
Ok.
On est sur les grandes déceptions pour le football français. Tiens, petite surenchère. Est-ce que vous êtes capable de me donner l'équipe de Lyon qui a joué ce match-là? C'est en 99. Messieurs, on va commencer avec Daniel et Ludo. Noms.
Dans les buts, Grégory Coupé.
C'est bon. Daniel.
Edmilson.
Oh non,
non.
Il était pas là. Non. Déjà. Non. Il devait y avoir Florent Laville. Non.
Non plus.
Caveglia,
effectivement. Devaux, Bach, Violo.
Jérémy Bréchet.
Anderson, Dorasso, Vérel, Fournier, Caveglia, Malbranque, Linares, Canouté. Voilà pour cette équipe qui s'était inclinée en 99, donc en tour préliminaire contre Mirabor.
C'est 95.
Maribor. J'ai repris le lapsus de Mathieu. Deuxième question. Je suis un club jouant dans une ville de 72 000 habitants qui possède le port le plus important de mon pays. j'ai formé un certain Martin Braithwaite lors de la saison 2013-2014.
Mathieu Esberg.
Oui, Mathieu Esberg, effectivement.
Malheureusement, par rappel.
De Saint-Etienne, ouais. Effectivement. C'était en Europa League. J'ai éliminé la Saint-Etienne après une victoire 1-0 lors du match retour à Geoffroy Guichard, sans d'ailleurs avoir frappé la moindre, avoir cadré la moindre frappe. Ils sont imposés 1-0. C'était en
2013.
Et effectivement, la question subsidiaire était qui était le joueur à marquer contre son camp. Mathieu l'a donné. Ça fait 2-0 en faveur de l'équipe Ludo. Mathieu, on attend une réaction de Daniel.
Ah bah les deux, je les aime, il va vite, c'est bien.
Et Mohamed. Oui. Peu connu dans le monde du football, pourtant j'ai éliminé un club français en 2010. Je suis allé jusqu'en demi-finale de la Coupe des clubs champions en 1965. Aujourd'hui, je joue
Mathieu,
en des dieux. Oui.
Gyor
en Hongrie. Alors là, bravo. Gyor, je crois que ça se dit d'ailleurs, voilà, en Mathieu, Hongrie, qui chapeau. Avait éliminé Montpellier lors de la saison 2010-2011.
Oui, là, ouais.
Bien joué, Mohamed.
On a droit à Google ou pas?
Oui, on a compris qu'il était là, oui, d'accord.
Alors, petite question subsidiaire, on parle de la saison 2010-2011. Daniel, Ludo, qui était champion cette saison?
Tu parles
2010-2011, champion de France.
Lille.
Bah, Lille, bonne réponse. Lille. Qui était le meilleur buteur cette saison-là?
Moussa Sow.
Qui était le meilleur passeur?
Eden Hazard.
Marvin Martin.
Ludo, c'est pour toi ça.
Marvin Martin?
Marvin Martin, meilleur passeur de la saison 2010-2011.
Avec Sochaux.
Et pas Lille, c'est sûr.
Ah non, Lille, ça a moins bien marché.
On continue, messieurs, surnommés les Diables Noirs. Je joue dans une petite ville de 60 000 habitants. Je remporte le championnat de Roumanie pour la première fois de mon histoire en 2016. Anciennement nommé Astra Polietzi.
Astra Giorgio, Mathieu.
On avait une bonne réponse de Daniel Riolo. Avant cela, qui égalise à deux partout l'Astra Giorgio qui avait sorti l'Olympique Lyonnais. C'était en 2014. 2-1 au match aller, 1-0 au match retour. Qui était l'entraîneur de Lyon, tiens, pour cette défaite face à l'Astra Giorgio?
Hubert Fournier.
Rémi Garde.
Hubert Fournier, bonne réponse de Ludo.
Ça vaut un point, ça, non?
Non, ça vaut pas un point. C'est juste des petites questions subsidiaires pour briller. Ah, et tu brilles. Donc je te félicite.
Vu que je brille pas dans le questionnaire, faut bien qu'on brille quelque part.
Plus important la petite.
De partout, messieurs, cinquième question. Ma ville accueille le rallye de Chypre. Ma ville se nommait autrefois.
Nicosie, Mohamed.
J'ai dit.
Alors, ce n'est pas la bonne réponse.
Limassol.
Mathieu, Apollon Limassol.
Bonne réponse Limassol, de Daniel. C'est l'Apollon Limassol, effectivement, qui avait sorti Nice lors de la saison 2013-2014, qui était l'entraîneur de Nice, des faits.
Puel.
Quelle année?
Claude Puel, ouais. Absolument. 2013-2014.
C'est la même année qu'Esberg.
C'est la même année qu'Esberg.
Qui sort Saint-Etienne.
Comme quoi, c'était pas beau pour les clubs français. C'était le tour d'après. Et l'année dernière, ce même club qui porte le nom d'un dieu grec a humilié Marseille en Europa League. 3-2 en faveur de Daniel et Mohamed contre Mathieu et Ludo. Question suivante. Fondée en 2005, je suis un club azerbaïdjanais. L'équipe était
Kabbalah.
À une époque.
Mathieu Kabbalah.
Ouais, bien joué, Daniel. Il va très vite, ça y est. Daniel, bravo, il s'est Daniel, mis en route. Bravo. Il est intenable. J'ai été dirigé par Tony Adams, tu le savais ça? Entre 2010 et 2011. Kabbalah en Azerbaïdjan, dirigé par Tony Adams. Je rejoue en rouge et noir à une lettre près. Je suis un joueur corse ayant signé en Russie cette année. Rémi Kabbalah, évidemment. J'ai éliminé Lille en barrage. C'était lors de la saison 2016-2017. Grosse déception pour les Lillois. Aujourd'hui, on m'appelle Mol Fervar Football Club. Je joue dans la ville de, je prends de l'élan, Sekesh Ferevar. J'ai déjà atteint la finale de la C3 en 85. Ça, c'est complètement étonnant et hallucinant. Après avoir éliminé le PSG.
Vidéoton.
Vidéoton, Daniel, bien joué. Daniel qui est en train de prendre l'avantage. Vidéoton qui avait sorti.
Mais là, tu remontes trop loin pour moi, là. 85.
85, c'est la finale de la C3. Mais en 2017, ils ont sorti Bordeaux.
Contre qui la finale de la C3? Match aller-retour à l'époque?
Contre le Real.
Oui.
C'était après avoir éliminé en ce temps-là le Paris Saint-Germain et Manchester United.
Le PSG.
Absolument. Et donc Vidéoton a sorti le 3 août 2017 Bordeaux. Ça fait 5-2 en faveur de Daniel et Mohamed. Réaction.
Non, on avait.
Non, il y a 5.
On n'avait pas 3.
Il y a
5-2.
Non, il y a 5. Bravo Daniel.
5-2. J'ai les mêmes couleurs que le FC Porto. Pourtant, nos deux villes sont à plus de 4000 km l'une de l'autre. J'ai été titré 29 fois champion. Ludo, tu as dit
Helsinki.
Que j'avais pas mon oreillette, elle était en train de tomber. Magnifique. Helsinki. J'ai entendu quand même de l'autre oreille. Bon, Helsinki.
Celle-là, elle est gravée à vie. Ils ont éliminé Metz en 99.
Absolument. 29 fois titré.
Celle-là, elle est gravée. Hein.
29 fois titré dans le championnat finlandais. Seul club à avoir représenté notre pays dans l'histoire de la Ligue des Champions. Helsinki. Chapeau. Mm-hmm. Attention, question en lien avec l'actualité. J'ai l'impression de faire Julien Lepers sur BFM TV, c'est terrible. Notre entraîneur actuel est un ancien joueur de Chelsea. Je compte dans mes rangs l'ancien Marseillais Bilal Omrani. J'ai été 5 fois champion de mon pays. Ma première qualification en Ligue des Champions arrive en 2008. Mon derby se joue contre l'Universidad de ma ville, mais mon grand rival est le Steaua.
C'est le rap.
Mohamed Clouche.
Mohamed Clouche, bien joué Mohamed. Bravo. Alors là, très vite. Et c'était Clouche qui avait éliminé.
T'es allé à un mariage là-bas. Voilà,
c'était dans l'actualité, absolument. Qui avait éliminé Saint-Etienne en 2005. Là aussi, grosse frustration pour les supporters stéphanois. Moi, je m'en souviens, je peux te le dire.
Oui.
Je l'ai bien en travers de la gorge. Il joue un petit peu dans les mêmes couleurs que Metz, d'ailleurs, Clouche. Dans un stade qui ressemble énormément à celui de Saint-Symphorien. Joli petit port de pêche. Tiens, d'ailleurs, à l'époque, quel consultant d'RMC a participé à cette rencontre? Il portait les couleurs de Saint-Etienne.
Ah, un mec qui bosse chez nous qui était
à Saint-Etienne. Piquionne, bien joué. Bien joué. On en est donc à 6-3 en faveur de Mohamed face à Ludo. Et il nous reste une seule question qui vaut 4 points.
Ah, bon,
c'est comme ça.
La mort subite, les gars.
Alors, la mort subite, effectivement, on parle d'une ville qui accueille les championnats du monde de ski nordique, notamment ceux de 2009. En 2004, je suis finaliste de la Coupe Intertoto. C'est cette même année que j'ai éliminé Nantes dans cette compétition.
Boleslav?
Non, pas le Mladá Boleslav.
Club quoi norvégien?
Slovan Liberec, messieurs. Slovan Liberec. Du coup, cette question à 5 points n'est accordée à personne. Et Mohamed, tu remportes 2 points.
Bravo, Mohamed. Bravo, les amis. Bravo, pardon, Daniel. Mathieu, bravo, Mathieu. C'était bon.
Bravo, messieurs. Et donc, Mohamed, tu remportes 2 places pour assister au film Le Gangster, le Flic et l'Assassin, un thriller.
C'est pas possible d'avoir FIFA 2019 à la place, non?
FIFA 2019, c'est possible. FIFA 2020,
non, 2020.
Dans les cartons, on a PES 2008.
Je te laisse voir avec le standard. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente saison avec vos clubs respectifs. Mathieu avec la Saint-Etienne, évidemment. Mohamed, je te souhaite avec le Paris Saint-Germain de retrouver du plaisir dans la victoire. C'est tout ce que je souhaite aux supporters du PES.
Je me suis embourgeoisé. Il faut que je revise mes petits clubs.
Ah ouais, voilà. Il faut que tu redeviennes le Ludo de province, le Ludo de la Baie des Champs. C'est ça qui nous manque. Messieurs, je voulais vous faire réagir à une chose, fait d'actualité, la blessure d'Ander Herrera. On a l'impression quand même, quand ça commence comme ça pour le Paris Saint-Germain, on a un peu envie de dire « Oh, encore !»
Tant que c'est maintenant, à la limite. Je préfère que ça soit maintenant qu'au mois de février. Hein. Honnêtement, après, il y a de quoi faire. Ils ont recruté pour, donc c'est pas une absence qui est préjudiciable tout de suite à l'entrée du championnat. Par contre, pour le garçon, ça l'est un peu plus parce que c'est important.
Parce que si tu voulais mettre en place un milieu avec Verratti et ne pas te servir de Marquinhos dans un premier temps au milieu, c'est raté.
Comme si le destin voulait que Marquinhos
C'est préjudiciable parce que pour le joueur, surtout, il peut pas se mettre dans le rythme, il peut pas se fondre immédiatement dans le collectif, il va être tenu à l'écart des entraînements et des premiers matchs. Si, quand même, c'est un vrai coup dur, blessé en début de saison. Après, il faut pas que tu reviennes trop vite. Donc 4 semaines, ça veut dire qu'en gros, il peut revenir après la trêve internationale. Donc là, d'un coup, c'est une recrue.
C'est vraiment 4 semaines, parce qu'on parlait de 2 semaines.
4 semaines, mais.
Alors la question qui me vient ensuite,
tu prends pas de risque, il revient après la trêve internationale.
Ander Herrera, la saison dernière, il a jamais une grosse blessure. Mais par contre, il a multiplié les petits pépins.
Donc là, d'un coup, ça devient après la trêve internationale, donc mi-septembre, là, quand ce sera la 5e journée, je pense. Ouais, non, c'est un petit
coup dur.
Au-delà de l'effectif, parce qu'effectivement, il y a des joueurs pour le remplacer. Franchement, c'est pas bon pour le PSG, c'est pas bon pour lui. Quoi.
Juste pour clôturer, c'est un petit coup dur. Effectivement, c'est pas gravissime pour le joueur, c'est pas gravissime pour le club. Mais est-ce que ça apporte pas un peu d'atmosphère un peu pesante quand on démarre une saison, on a envie de sourire, de voir les recrues.
Faut pas attaquer la paranoïa, ça peut arriver à tout le monde. Et en plus, t'as vu c'est un vrai périple qu'ils font. Hein. Ils sont partis aux États-Unis, enfin, ils sont partis je ne sais où, à droite, à gauche, ils vont, ils reviennent.
C'est quoi, il s'est fait mal au mollet?
Les différences de température, d'humidité, les voyages. Donc bon, et voilà, c'est le lot de tout club qui font ce genre de préparation avec des tournées.
J'ai mis 2 semaines. Hein. Ouais. Donc lui, forcément, 3-4.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Je voulais avoir votre avis sur Ander Herrera, donc blessé pour le début de ce championnat, au moins pour les 4 premiers matchs, selon toute vraisemblance. On se retrouve demain dans l'after à partir de 22h. Il y aura une énorme page dédiée, pardon.
Demain, on revient après le match de Strasbourg.
On revient après le match Plovdiv qui est à 19h30. Donc, ce sera effectivement dans la foulée de la rencontre. Il y aura une énorme page sur le mercato anglais. On vous rappelle que le mercato en Angleterre se termine demain à 18h pour ce qui est des achats. Ils pourront en revanche vendre ensuite.
Ludo. Gilbert n'est pas home terrain à Plovdiv.
Pas à Plovdiv.
Je ne sais pas s'il y a. Il était à Raifa, mais en tout cas.
J'ai l'impression qu'il choisit ses combats.
Ça m'étonne.
Ça peut lui plaire. En tout cas, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Allez, on se retrouve demain dans l'after, et comme disait Bill Shankly, le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est beaucoup plus important que ça.
RMC l'after foot.